Non, il faut vraiment admettre. Au début, je ne me rendais pas du tout compte. Mais j'étais historienne et en tant qu'historienne, vous vous intéressez au temps. Alors le temps, c'est quelque chose d'important. Et puis, j'avais commencé à travailler avec ces montres au musée Beyer et je me rendais compte, alors il y a toute une histoire derrière, et il y a des petites œuvres d'art, c'est incroyable. Quelquefois, surtout, ça c'est peut-être aussi une prochaine livre de la série, la peinture en émail, où on a des tableaux fameux qui sont reproduits en minuscules sur ces boîtiers de montre, et ça me fascinait. Et de plus que je me plongeais dedans, de plus ça m'a fasciné. Et oui, maintenant, toujours si je suis dans une nouvelle ville, je me demande, est-ce qu'il y a un musée d'horlogerie?
Qu'est-ce que vous allez regarder en premier lorsque vous découvrez justement un musée d'horlogerie et que vous savez qu'il y a des collections qui se présentent? Qu'est-ce qui vous intéresse en premier lieu?
En premier lieu, ça dépend un peu comme l'exposition est exposée, mais d'abord, les horlogers du 18e, ça c'est un chapitre fascinant de l'horlogerie, parce que presque toutes les inventions qu'on a aujourd'hui, et de quoi on parle dans ce livre, ce petit livre, ont été faites au 18e siècle. Mais à part de ça, pour moi, je suis plutôt concentrée sur le 19e, ça c'est l'âge où la Suisse commençait à être très fort dans l'horlogerie et aussi où les montres entraient dans la vie quotidienne de beaucoup des gens. Avant, c'était quelque chose pour les gens très bien aisés, c'était un luxe, mais environ moitié 19e siècle, ça entre dans la vie de quotidienne de beaucoup des gens.
C'est vrai que cette histoire est fascinante, hein. Il y a beaucoup d'horlogers qui venaient de Paris, qui sont allés à Genève, ensuite dans l'arc jurassien, puisqu'on est à La Chaux-de-Fonds, entre La Chaux-de-Fonds et les Franches-Montagnes, il y a eu tous ces paysans horlogers, hein, caractérisés notamment dans les maisons par ces toutes petites fenêtres. C'est non seulement l'horlogerie, la technologie de ces horloges, mais c'est la vie de ces gens. Alors bien sûr, il y a les grands noms, mais il y a aussi les petites mains et ces personnes-là étaient excessivement importantes.
Oui, je trouve ça aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fascinée parce que si on regarde ensemble une montre, on est très proche à l'horloger. Et on sait peut-être qu'ils ont vécu dans des très modestes. Quand même, ils ont fait des chefs-d'œuvre. Et ça, je trouve fascinant. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais mieux apprendre et aussi peut-être écrire plus la vie des horlogers, pas nécessairement des grands noms, mais aussi la vie quotidienne des gens qui ont vécu ici.
Aujourd'hui, il en existe toujours de ces grands horlogers, des horlogers inventifs. On parle des montres à complications, mais ce qui se fait actuellement est absolument extraordinaire aussi. Mais est-ce que vous pensez que les horlogers d'aujourd'hui ont quelque chose à apprendre des horlogers qui travaillaient il y a un siècle, deux siècles ou trois siècles?
Alors aujourd'hui, c'est beaucoup les choses, même si on dit, je sais bien que la publicité met toujours le focus sur le travail à la main, mais beaucoup des choses, ce sont des machines qui le font aujourd'hui. Ah, maintenant, il me manque le mot en français, ce sont les roues à dents. Les petits roues,
oui,
qui transportent, qui met en effet le mécanisme en marche. Et ça, aujourd'hui, naturellement, ce n'est plus fait à la main, ça sont des machines, même chez les grandes marques. C'est parce que ça se fait beaucoup plus précisément avec une machine qu'à la main. Et il me semble que les horlogers d'aujourd'hui, ils peuvent apprendre des horlogers d'autrefois qu'on peut faire beaucoup avec très peu des outils.
La dernière question que j'ai envie de vous poser, puisque vous travaillez avec une certaine passion sur ces montres, et on rappelle justement ce livre qui vient de sortir, L'heure et plus encore, avec notamment des montres que l'on peut découvrir, hein, si on va à La Chaux-de-Fonds, au Musée international d'horlogerie. C'est pour ça que c'est intéressant. Finalement, allons-y avec le livre, hein, c'est ça qui est fascinant. Est-ce qu'il y a, dans toutes les découvertes que vous avez faites, un jour, une montre ou une horloge particulière qui vous a vraiment fasciné, où vous vous êtes dit, tiens, cette horloge, elle me parle particulièrement.
Ce sont en effet plusieurs. Il y en a une qui est sur la date et elle était dans la vitrine. Et comme vous le savez peut-être, c'est toujours une chose, une grande affaire si on veut sortir une montre d'une vitrine d'un musée. Et c'était possible alors. Et puis on a découvert des toutes petites images pour indiquer le mois. Non, c'était les jours de la semaine. Pardon. C'était le petit mars pour le mardi et une petite dame avec une lune dans les cheveux pour le lundi. C'était fascinant à découvrir. Mais aussi, l'autre chose, c'est plutôt dans les documents. Les documents du musée étaient accessibles pour moi. Il y a cette montre qui s'appelle La Merveilleuse. C'est une montre ultra compliqué, une des pièces majeures du fin du 19e siècle. Mais à part de ça, cette montre est bien connue, elle était écrite plusieurs fois déjà. À part de ça, j'étais très touchée de trouver des lettres d'immigration, de trouver des passeports pour la montre faite pour les États-Unis. Alors, toute cette histoire de la migration des gens d'ici ailleurs, ça me fascinait énormément.
Je crois que c'était aussi l'une des volontés du Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds de dire oui, une montre, c'est beau, oui, une montre, il y a des complications, c'est toute la technologie, mais toutes ces montres ont une histoire. Et finalement, ce sont les histoires de ces montres qui sont toujours fascinantes. Rien qu'une montre qui se passe d'une génération à l'autre. Mais il y a des montres qui voyagent, il y a des montres qui ont été portées par des personnalités. Et ces montres qui peuvent raconter des histoires. Pour vous qui êtes historienne de l'art à la base, ça aussi c'est particulièrement fascinant.
Oui, c'est très fascinant. C'est en effet ça ce qui m'intéresse le plus. Et c'est rare qu'on a des documents aussi copieux qu'au Musée international d'horlogerie. Là, on trouve beaucoup d'informations sur presque toutes les pièces. Malheureusement, ce qu'on ne trouve pas, très rarement, ça sent les gens qui ont possédé la montre. Par exemple, le livre commence avec une montre bracelet qui appartenait certainement à une dame de la société parisienne, mais on ignore le nom, on ne sait pas. Alors ça, on doit être contente avec. Il sait quand même une histoire qui est derrière cette montre. C'est juste ça, une dédication là-dedans.
Une dédicace, une signature.
Une signature dedans. Et on voit une gravure. C'est c'est dédié à ma chère sœur. Alors, on ne sait même pas le nom. Et il y a une date, Paris 1850, je ne sais plus par cœur, 57 ou 58. Et puis il y a cette camée là avec une femme qui est en deuil et ça parle déjà quelque chose. Et ça sent des petites pierres qui font une histoire de cette montre.